Bonjour à toutes et tous. Bonjour Pascal Quignard.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir une nouvelle fois à la librairie Mola. La dernière fois, c'était pour votre dernier roman, L'amour, la mer. Cette fois-ci, avec ce rythme d'alternance auquel vous nous avez habitués, il s'agit donc du volume 12 de votre grand projet, Le Dernier Royaume, qui s'intitule donc Les Heures Heureuses. Alors, avant d'entrer évidemment dans le vif du sujet des Heures Heureuses, on peut peut-être juste parler en un instant de cette alternance que vous faites entre roman et écriture plus essayiste, parce que pour le public, c'est un peu, je dirais, quelle différence vous faites entre les deux types d'écriture, sachant que pour L'amour, la mer, comme pour la plupart de vos autres romans, on retrouve cette manière assez hétéroclite de mêler des aphorismes, des bribes, des dialogues avec des thèmes qui reviennent aussi, comme là, par rapport à L'amour, la mer, on a à nouveau la mer qui est importante, des personnages qui reviennent, Froberger, La Rochefoucauld, etc. Comment vous pratiquez les deux types d'écriture? Est-ce que ces deux types, quelle différence faites-vous?
Oui. Non, oui, je fais une grande différence, oui, entre le roman et le Dernier Royaume. Si vous voulez, le Dernier Royaume, pour moi, c'est un genre, si j'ose dire, c'est un non-genre que je me suis inventé, par lequel je pouvais avoir tous les genres possibles. C'est-à-dire, je peux mettre, comment dire, une lettre, un menu, une liste, tous les genres littéraires. C'est vraiment quelque chose où il n'y a pas de posture possible. Il n'y a pas, celui qui me lit ne peut pas être sûr que c'est pas non plus un essai, c'est pas un discours, c'est pas un sermon. Ce ne sont pas vraiment non plus des aphorismes. Il y a des contes aussi. Il y a d'état, le conte c'est très différent du roman. Enfin, je vais pas préciser tout ça, mais ça, c'est donc ce refus que j'ai eu très tôt, que je ne m'explique pas d'ailleurs très bien. Que je m'explique pas très bien, mais je sais que je ne voulais pas que quand mes amis me le disaient, ils sont plus là, mes amis, mais quand. Je me rappelle une discussion avec Emmanuel Occar, qui était un très bon ami, avec et qui voulait que je parle de poésie, qui me trouvait poète. Ou je n'aimais pas. Il y avait des attitudes et des rôles, comment dire, sociaux derrière les genres qui m'embarrassaient, qui me gênaient. Et donc je voulais échapper à ça. Et Dernier Royaume est une façon de, pour moi, de m'être inventé un flux qui permet n'importe quoi dans le fond. Tandis que les romans, si, il y a forcément une forme de narration. Là, il y a et la narration est un début, une fin, une histoire. C'est un genre qui est un non-genre aussi. C'est pas un genre très précis. Le roman n'est pas. Et le roman, comment dire, pour moi, alors là, je ne saurais pas non plus très bien expliquer, mais c'est vrai pour tous les romans que j'aime aussi, est un genre qui est plus sexué. Je veux dire, là, il y a, comment dire, des personnages. Je n'oserais jamais, comment dire, dans la vie, parler à la place d'une femme, parce que je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas. Et dans un roman, si, c'est un lieu où quelque chose s'ouvre autrement. Et voilà, c'est les deux différences que je vois.
Et dans votre pratique d'écrivain, vous faites l'alternance, comment vous passez?
Non.
Est-ce que vous faites simultanément les deux types d'écriture? Est-ce avez terminé un roman, vous?
Non, je ne peux écrire que je ne peux pas faire deux choses à la fois. Non, je ne peux pas faire deux choses à la fois. Mais je ne fais pas d'alternance. Je pourrais très bien faire. D'ailleurs, la première fois où j'ai, au début de Dernier Royaume, j'ai eu trois tomes d'un coup.
Ouais, ouais.
C'est pas une. C'est une. Euh, Les romans ont ceci aussi, c'est une caractéristique peut-être qu'il n'y a pas du tout dans les heures heureuses, dans les derniers royaumes, ont une caractéristique, c'est qu'ils arrivent entiers dans la tête. Et pour moi, je sais qu'ils sont, je ne peux pas dire bons, mais je sais qu'il faut que je les écrive lorsqu'ils résistent à l'oubli, lorsqu'ils restent dans ma mémoire. Et dans ce cas-là, je sais tout, du début jusqu'à la fin, je n'ai plus qu'à l'écrire, mais c'est assez fastidieux à écrire, le premier jet. Et puis ensuite, pour moi, c'est le plaisir infini de reprendre, de réécrire. Voilà ma vie.
Il y a la musique aussi. Avec Les Heures Heureuses, hein, vous êtes dans le 12e volume, on ne sait pas trop comment l'appeler, opus, volume, d'un cycle. Est-ce que c'est un cycle? Est-ce que c'est une série? Vous diriez...
Non, c'est un dernier royaume. C'est là où je mourrai. C'est un dernier royaume. C'est un endroit. Vous savez, le siècle précédent, la fin du siècle précédent et le 20e siècle tout entier a été soudain peuplé par des tas d'œuvres qui ont concerné le temps. La plus belle, d'ailleurs, je crois, est celle de à mes yeux, celle de Bergson. Et je devais écrire, du temps j'étais l'élève d'Emmanuel Lévinas, hein, ma thèse sur Bergson. Et puis, il y a d'autres aussi, bien sûr. Il y a bien sûr les livres de plus précis, plus discutables, de Spengler, de Heidegger. Il y a sur le temps beaucoup de... Bon, bref, il y a eu énormément de travaux sur le temps, et particulièrement les plus intéressants pour moi, je trouve aussi, ont été ceux de... qui ont modifié énormément la vision du temps, sont ceux de la psychanalyse, ceux de Freud, qui ont cassé, comment dire, la linéarité du temps et créé, comment dire, tout un système d'après-coup et de désorientation, avec cette idée très belle et très vraie, que le temps du rêve n'est pas du temps, qu'il n'y a pas de temps dans le rêve, qu'il n'y a pas... Bon. Alors, ce dernier royaume, en fait, je trouvais que dans les philosophes ou dans les... Ils n'examinaient pas tous les visages que présentait le temps. Donc, moi, j'essaie, dans le dernier royaume, de donner tous les visages possibles du temps. Et là, cette fois-ci, c'est les heures,
que je voulais examiner. Alors, effectivement, par rapport à... Bon, vous l'avez très bien dit, Le dernier royaume, c'est une sorte, on pourrait dire, de méditation sur le temps. Il me semble que par rapport au dernier, en tous les cas, celui-ci renoue vraiment avec le jadis, par exemple, etc., avec une méditation sur le temps, et ici, qui prend cette forme de l'heure, hein, de l'heure heureuse. Vous pouvez peut-être... Vous développez très bien au début... Comme toujours avec votre goût et quasi obsessionnel et de la langue d'origine et de l'étymologie, hein, les différents sens d'heure et pourquoi on arrive avec ces heures heureuses, avec les deux sens, hein, d'heure temporelle et d'heure fortune. Et alors pourquoi cet arrêt justement dans ce livre-là, pourquoi cette méditation particulière sur l'heure et peut-être sur le rapport entre heure et date qui...
Écoutez, là, c'est parce que bon, je suis un littéraire. Là, c'est vraiment que nous parlons une langue, le français, qui est assez étrange. Le mot « heure » est un mot vraiment étrange, qui est propre à notre langue. Heure au masculin, j'ai l'heure de vous plaire ou de ne pas vous plaire. Cette heure-là peut être magiquement comme ça, soit bon, soit mauvais. C'est le bonheur ou c'est le malheur. Il y a donc une espèce de circonstance, d'occasion dans notre langue qui fait que ça, il n'y a pas d'essence dans le mot. C'est une circonstance qui peut être traduite de façon bonne, agréable, allègre, ou bien triste, chagrinée, mauvaise. Et c'est, ça, c'est une particularité de notre langue. Quand on prend le mot lui-même « heure », ce sont en grec, c'est dans l'Iliade qu'il y a ce très beau passage sur les « orailles ». « Orailles », en grec, donc, c'est les « heures ». Il y a deux. Au début, il y a deux. On a mis du temps à arriver jusqu'à 12 heures. Au début, il y a deux heures. Et ce sont les portes du ciel, dit Homère. Les portes du ciel par lesquelles, lorsqu'elles s'ouvrent, les dieux passent. C'est une très belle définition aussi du tour du temps. Alors, dans la journée, les deux heures, ce sont, comment dire, la nuit et le jour. Une porte est la nuit, l'autre porte est le jour. Dans l'année, c'est le printemps et c'est l'hiver. Ça les démultiplie peu à peu, et puis ensuite, en effet, les heures se sont... Et puis après, même, ils sont devenus des minutes, après, ils sont devenus des secondes. Alors, comme moi, toutes les choses qui paraissent simples m'apparaissent comme compliquées. Plus elles deviennent compliquées, plus elles deviennent énigmatiques, plus je les trouve intéressantes. Voilà la raison pour laquelle je me suis penché particulièrement sur... Dans le livre précédent, c'était sur les mots. Et là, les dates, qui sont les fruits des heures, si vous voulez, sur une tombe, qu'est-ce qu'il y a? Et je m'approche d'un moment où, d'ailleurs, peut-être, j'aurai une tombe. Il y a un nom et il y a une date. Des dates. Voilà, donc c'est ça. Souvent, une vie se résume à ça. Je ne crois profondément pas, d'ailleurs, qu'une vie puisse se résumer ni à la mort, ni à cette pierre tombale. Mais ça vous explique un peu donc la mélancolie et le tour de ce livre.
Alors, dans cette façon que vous avez d'essayer d'approcher l'expérience du temps, disons. Effectivement, vous dites les dates s'opposent aux heures. Et j'ai l'impression, je dirais si j'ai compris quelque chose de ce que vous vouliez essayer d'approcher, il me semble que les heures, justement, c'est le temps de la nature, ce que vous venez de dire, le temps des saisons, le temps du cycle, un temps qui n'est pas forcément orienté et linéaire, tandis que la date serait une temporalité humaine, quelque chose qui serait une fabrique humaine pour se retrouver dans le temps impalpable des heures. Est-ce que c'est en ce sens-là que vous opposez heure et date? Comment...
Il n'y a strictement rien à dire, tellement vous l'avez bien dit. Je n'ai pas... Non, si vous voulez, c'est très simple. C'est comme si l'on pouvait imaginer une roue, quelque chose de circulaire, qui fait que, comme les dieux passent, il y a, comment dire, c'est merveilleux dans le monde japonais. Là, ce sont les livres d'heures, ce sont les almanachs, si vous voulez. Dans ce cas-là, vous avez, lorsque l'on vit longtemps, comme moi, j'ai eu la chance de voir 75 fois ce tour, cette circulation, qui était un véritable cercle, en effet. Et un cercle qui s'approfondit avec le temps, qui s'embellit. C'est très curieux à dire, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais je plains immensément les enfants, j'ai connu ça, les adolescentes ou les gens qui meurent trop tôt. C'est une vraie souffrance parce qu'ils n'auront pas connu précisément l'approfondissement des printemps, l'approfondissement des automnes, le nom de tous ces fruits, le nom de ces gibiers, de ces lunes qui se défont, qui se métamorphosent, de ce ciel qui revient, de ces équinoxes, de ces... Bon, tout ceci vraiment est quelque chose qui, en effet, circule infiniment et qui est immortel. Je connais pas la mort. Et puis arrive sur ce cercle, comment dire, comme une... une ligne qui vient juste une sorte qui touche ce siècle. Et c'est peut-être pas aussi l'essentiel de nos vies que nous le croyons, et qui est celle qui commence à notre naissance, qui est faux parce que notre existence commence avant notre naissance. Mais enfin, sur la tombe, en effet, on a décidé de prendre la date de la naissance pour le début. Alors, ça n'est pas le début, ni l'origine en nous, ni la conception. Et puis, bien sûr, celle qui termine. Et ça, c'est un début, une fin, c'est ce qu'on appelle un récit ou une narration. C'est un phénomène du langage. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, que c'est du langage. Mais c'est ce que on voudrait que nous soyons. Je dis on voudrait parce que toutes les civilisations n'ont pas imposé, comment dire, aux individus la date, le nom, l'identité, la signature, les signes, comme nous sommes très obéissants à tout ce que nous demande la société, mais toutes les sociétés n'ont pas du tout requis ça de nous, et même pendant très longtemps, même en Occident, il n'y avait même pas les prénoms se succédaient, mais il n'y avait même pas de patronyme, ni rien qui devait indiquer. Si, je veux dire par là, comment dire, la reproduction sexuelle des individus se faisait, elle aussi, de façon plus circulaire que les nôtres. Nous, nos vies nous paraissent très individuelles, une ligne extrêmement... Voilà, je ne fais que répéter ce que vous aviez dit tout à l'heure. Voilà le fond de ce que j'ai voulu souligner. Si vous voulez, là, pour répondre encore plus précisément, là, c'est moi-même qui me pose la question. Je me suis vraiment posé la question lorsque, avec une vraie culpabilité, la Russie a envahi l'Ukraine, et qui était ma question, c'était, comment dire, qu'est-ce qui est vraiment actuel ? Je trouvais ça tout à fait effrayant de voir. Ce qui m'a effrayé, si vous voulez, c'est de voir. J'ai vécu pendant enfant dans une ville complètement détruite, Le Havre, qui a été détruite durant 7 ans. Et sur les photographies que je voyais de Mariupol, c'était Le Havre. Et je me disais que là, il y a une répétition. Qu'est-ce qui est actuel ? Qu'est-ce qui est Et est-ce que la guerre est plus actuelle, par exemple, que le circuit des saisons? Et que moi, je vis à la campagne, et bien sûr, je vois les animaux que j'aime beaucoup. Je vois de très 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 près la vie des plus proches, je veux dire, comme les rouges-gorges ou comme les merles ou comme les chats que j'ai. Et eux font précisément de chaque jour ce circuit que je dis, ils le font. Ces félins font ce circuit extraordinairement actuel, puisqu'ils subissent les saisons, ils subissent les heures, ils subissent le mouvement de la lune, ils subissent exactement comme l'ami dont je parlais, dont je parle en effet, qui passait toutes ses matinées à regarder de très très près l'horaire des marées pour savoir quand elle allait pouvoir nager. Ça, c'est très actuel, bien sûr. Ça change chaque jour. C'est très... Et voyez le trouble dans lequel j'étais. C'est qu'est-ce qui est le plus actuel? Est-ce que c'est cette ligne, ce récit? Est-ce que le circuit du temps, des saisons, n'est pas plus actuel et plus vivant, plus proche de la vie que cette redite perpétuelle des guerres absolument semblables et des haines nationales et internationales qui se répètent, comment dire, comme qui radotent de façon si terrible pour produire la même ruine dans laquelle j'avais vécu pour la voir dans un autre port exactement semblable. Voilà un petit peu ce qui m'a troublé.
Quand vous dites actuel, est-ce que c'est pas aussi réel? C'est-à-dire que la réalité de l'expérience du temps n'est précisément pas celle des événements, pas celle de la date, de ce qui marque, de ce qui fait fraction, comme une guerre, etc. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a le cercle et il y a des sortes d'encoches que sont les dates. Est-ce que c'est pas plutôt réel ce qu'on arrive à approcher, me semble-t-il, par votre écriture, on va revenir hein, bien sûr sur cette écriture qui permet, c'est ce sentiment du temps qui est un temps discontinu, qui est celui des heures. Et dans votre livre, moi, ce qui m'a aussi décontenancé, disons, c'est qu'à la fois on a cette appréhension, effectivement, ce réel du temps de notre relation au temps, du temps éprouvé, qui est un temps discontinu. Et en même temps, il y a ces dates qui apparaissent. Vous avez une écriture où il y a beaucoup de dates, hein, où il y a évidemment le grand XVIIe siècle qui revient, mais aussi, il me semble que j'ai... Voilà, par exemple, chapitre, page 188, Jacques Esprit est né à Béziers le 22 octobre 1611, son père était médecin, il exerçait dans la cité plantureuse et rosade de Toulouse, un peu plus loin, il fait venir l'adolescent de Toulouse à Paris durant l'été 1629, afin qu'il entre au séminaire, il y est reçu comme novice le 16 septembre 1629, etc. À quoi servent ces dates ou comment, pourquoi on a cette double approche?
C'est de la littérature pure. Parce que la réponse que je vais vous faire, c'est pas tellement l'histoire qui préside à ça. C'est une vieille ruse qui, d'ailleurs, dans tous les récits chinois, fonctionne admirablement. Lorsque vous voulez donner, comment dire, un caractère un peu contingent, un peu singulier, un peu une sorte d'émotion modeste et humble, mettez des dates sur une généralité et ça la rend extraordinairement troublante. C'est ce que Roland Barthes appelait l'effet de réel. Ça n'est qu'un effet de réel. C'est quelque chose, c'est une ruse que... Et puis il y a un autre trouble que je prends aussi d'ailleurs à Lorient. Si vous prenez, là j'en reparle un peu, vous prenez le XVIIe siècle. Bien sûr, ce que je vais vous dire est faux, parce que il n'y avait pas de lien à l'époque, même pour les Portugais, même pour les Hollandais, entre le Japon, entre les 1000 îles du Japon et l'Europe. Au XVIIe siècle, bien sûr, mais c'est vrai, alors là, c'est vrai qu'historiquement, les samouraïs, cette révolte, comment dire, des guerriers inemployés qui se sont mis à s'entretuer dans le monde japonais avec une morale très belle et très terrible et devenir des poètes, ça a été la même chose, particulièrement un peu en Italie. Particulièrement en France, de Louis XIII à Louis XIV, où les guerriers inemployés se sont mis à s'entretuer, à devenir des écrivains absolument sublimes. J'ai raconté l'histoire qui est vraie de Froberger, qui est un musicien, je trouve tout à fait impressionnant. Je vais l'an prochain avec un ami, Pierre Gallon, faire quelques concerts sur l'œuvre de Froberger pour le mettre un peu en avant, comme j'avais fait autrefois avec Sainte-Colombe pour le mettre aussi un peu en avant. Maintenant, il est reconnu, mais il n'était pas il y a plus de 30 ans. Je vais le faire avec Froberger. Froberger, c'est vrai, comment dire, que cette figure très étrange, une sorte de virtuose, bien pré-romantique, de cette manière, puisqu'il parcourait l'Europe avec une mule, avec sur son dos un clavier, et qu'il donnait des concerts à Londres, à Paris, même pendant la Fronde, en Italie, bien sûr, puisqu'il a été auprès de Frescobaldi, un de ses élèves, partout, bien sûr, à Vienne et en Allemagne. Il allait, en pleine guerre de religion, comme ça, faire de la musique, écrivant des choses très singulières, très personnelles, lamentation pour avoir été, comment dire, blessé par des pirates espagnols, magnifique, comment on appelle, méditation sur ma mort future, enfin, c'est une pièce très 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 belle, comment dire, tombeau de monsieur de Blanche-Roche tombant dans son escalier, ben, or, pardonnez-moi, je suis un peu long dans mes digressions, mais c'était pour faire sentir la chose à vous qui m'écoutez. Or, le plus grand poète du Japon, au XVIIe siècle, dans les mêmes dates, absolument les mêmes dates, et c'est ces émotions-là que j'essaie de pour répondre à votre question, hein,
oh, ouais.
S'appelait Bachot, qui est connu surtout pour son sentier au bout du monde, Il a inventé, comment dire, le voyage, exactement comme Freiberger. Le voyage, par lui, c'est par haïku. Il écrivait comme ça, et au parcours, dans les avoines, il voyait un bout de... un casque par terre, il évoquait une guerre, il évoquait, comment dire, tous les anciens qui étaient morts. Il raconte l'histoire du Japon en pérégrinant. C'était devenu sa voie bouddhique à lui. Sa voie bouddhique, c'était le voyage. Et bien, ces contrastes-là, ou ces rapprochements-là, c'est ce qui fait mon plaisir.
Et le nôtre.
Hein, c'est gentil.
Alors, les heures, c'est pas seulement les heures, c'est les heures heureuses. Et effectivement, dans ce livre, il y a beaucoup de moments, d'évocations, de moments heureux que vous faites revenir. Et est-ce que, d'une certaine façon, ce livre-là, et c'est ce que vous vouliez faire un recueil d'heures heureuses, comme des livres d'heures, mais évidemment transposés, est-ce que c'est un peu ça le projet ? Essayer de...
Oui, non, vraiment, je ne sais pas si c'était le projet, c'était l'ambition. Je ne suis pas sûr d'y être parvenu. Mais... C'était en effet, comment dire, en philosophie en tout cas, c'est sûr, pour Spinoza, la caractéristique de la joie et son caractère extrêmement abrupt et comment dire, qui tombe sur la tête comme la surprise, la joie est une surprise. Et ça, il y a eu des textes absolument magnifiques sur la joie. Sur le plaisir qui est quelque chose, comment dire, le plaisir sexuel, le plaisir lui-même qui est une exigence interne, comment dire, qui se laisse prendre de vitesse par elle-même dans la recherche qu'elle a de sa propre euphorie, de sa propre extase, est aussi quelque chose qui est souvent décrit, ce n'est pas une... Mais le bonheur, j'en ai peut-être à cause de cette difficulté dont je parlais tout à l'heure entre ce mot heure et cette traduction en beauté, en bonté, suppose, comment dire, qu'il soit de retour. Donc je voulais faire en effet un retour du bonheur pour répondre exactement à votre question, parce que je crois pas qu'il soit possible qu'il y ait de bonheur qui ne soit un retour. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des gens aussi malheureux, peut-être. C'est parce qu'ils ne savent pas que ça se construit, que ça s'accueille, un bonheur. Il faut pouvoir repérer dans son expérience, pas forcément des choses qui aient été heureuses, mais pouvoir les faire revenir à elles-mêmes sur le fond de ce qu'elles ont été. C'est un peu ce que pensait très curieusement Platon. Il faut avoir vécu, et nous avons vécu une autre existence de toute façon, qui n'avait pas de mots, qui n'avait pas de souffle. Dans le ventre de nos mères, nous avons vécu des choses, un très grand nombre de choses, la musique le sait mieux que nous, qui peuvent, en revenant, devenir absolument sublimes. Et la musique, quand elle est pure, la musique de Mozart, la musique de Gabriel Fauré, la musique, lorsqu'elle devient extrêmement pure, quand elle n'est pas à programme ni rien, parvient à faire rejoindre, comment dire, les ondes les plus anciennes, et à rendre heureuse. La musique, dans la nostalgie propre à la musique, elle peut... Là, il y a des pages très très belles, très très belles de... C'est pour ça que je parlais de Fauré. Très très belles de Vladimir Jankélévitch sur l'essence de la musique. Il n'y a pas beaucoup de textes aussi beaux sur la méditation de la musique que les textes qu'avait écrit, comment dire, Jankélévitch sur Fauré, très beau livre, et aussi il a bien connu, lui a beaucoup écrit, un extraordinaire musicien qui est Mompao.
Et dans cette ambition, comme vous dites,
ambition, voilà, mais...
vous dites aussi que donc il y a une sorte d'apprentissage hein, du retour du bonheur. Vous dites aussi que vous n'êtes pas sûr d'éprouver. Je vais retrouver le passage. À la fois, c'est une manière de faire renaître le bonheur ou de faire durer le bonheur, j'imagine, de d'écrire ou de communiquer avec ces moments heureux.
D'augmenter.
Mais vous dites aussi qu'à un moment, je ne sais pas si j'éprouve de la joie à faire revivre le bonheur. J'arrose. Il est même des gens qui ne sont pas heureux d'être heureux.
Ça, c'est vrai. C'est terriblement vrai. Ils sont même inquiets. C'est vous qui me faites penser, mais vous voyez qui est le Pontormo, ce maniériste italien magnifique, oui. Pontormo. Pontormo a écrit un journal intime qui n'est pas très passionnant parce qu'il est question plutôt, comment dire, de ses urines, de ses choses. C'était vraiment quelqu'un de très très soucieux de son corps. Et le journal de Pontormo commence par cette phrase tout à fait extraordinaire. Je suis étrangement heureux, je ne sais pas ce qui se passe. Et en effet, il y a des gens pour qui le bonheur est quelque chose qui les inquiète. C'est pas mon cas. Non.
Bien, et donc au cœur hein, de ce livre, on pourrait dire, il y a une sorte de cœur qui est l'amitié avec Emmanuel Bernheim.
Et c'est un cœur, oui, vous avez raison de dire cœur, parce que mais ça s'est révélé, c'était pas prévu, si vous voulez. C'est pas prévu. Mais c'est vrai que oui, vous avez raison, c'est le cœur, puisque c'est parce que ce souvenir était très très heureux. Que j'ai eu, alors que je n'avais pas du tout, je n'aime pas particulièrement les choses très privées, mais que j'ai eu du plaisir à évoquer ce bonheur. Oui, vous avez raison dans ce sens.
Oui. Donc ça participait. Alors vous évoquez hein, donc effectivement, et on retrouve hein, du coup ce portrait de la grande nageuse. Et vous dites que dans l'amitié qui vous unissait, c'était une amitié où vous ne parliez pas de vos livres, ni des films dont on avait pu... ça paraît un peu mystérieux pour un lecteur. Sur quoi reposait cette amitié? Enfin, c'est pas du tout une question privée, d'ordre privé que je veux poser, mais comment deux écrivains qui sont liés d'amitié ne communiquent pas sur leurs livres, comme de quoi était faite cette amitié où le livre avait quand même forcément un...
Mais vous voyez quand même dans la question que vous posez, je vais vous répondre, bien sûr, mais combien vous êtes habité par le langage en posant cette question, et je sais parce que je m'amuse parfois à poser cette question à des amis, même à des psychanalystes. Ça m'amuse parfois leurs réponses, qui me disent parfois « Mais toute ma vie est langage, je suis conscient sans arrêt du réveil jusqu'au coucher, tout ça. » Et moi, pas du tout. Emmanuel, pas du tout non plus. Elle m'avait... La première fois où je l'ai rencontrée, il y a très 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 longtemps, elle voulait venir, comment dire, j'étais un éditeur chez qui je travaillais à l'époque, il y a bien longtemps que j'ai quitté tout ça, en 1994, donc il y a bien du temps. C'était bien avant ça. Elle m'a raconté sa vie comme si elle m'avait pris comme un psychanalyste. Donc j'ai reçu sa vie déjà tout entière. Et puis après, plus jamais rien. Ce qui était dit. Et c'est vrai que marcher, boire, lorsque nos compagnons et compagnonnes réciproques partaient faire des choses mondaines, eh bien on en profitait pour aller marcher, pour aller, elle, pour nager. Elle, je dois dire quand même, comment dire, pas en défaveur, parce que je ne dirai jamais un mot en sa défaveur, mais elle nageait énormément quand même pour tuer l'angoisse, pour tuer son propre malheur. Ça lui faisait un bien fou, elle en avait besoin plusieurs fois par jour, elle avait besoin de se fatiguer. Sa douleur, mais on ne parlait pas de douleur, on parlait. Donc je marchais, je l'accompagnais, je nageais beaucoup moins qu'elle, et je l'attendais. J'aime beaucoup attendre aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus beau d'attendre au bord de la mer, enfin, bref, on marchait pendant des heures, elle marchait devant. Parfois elle faisait des gestes et je suivais ses gestes, mais c'est tout. On mangeait, on buvait énormément, on n'avait pas peur, et la vie était tout à fait... Mais on n'avait absolument pas besoin de parler, non. Non. C'était une vraie... J'ai deux chats, dont toujours c'est le même qui commence et qui suit. On était comme ces deux chats-là, deux félins qui se suivaient. Et vous avez remarqué, les chats parlent. Si, ils parlent pas mal, ils parlent beaucoup quand même. Ils font peut-être plein de petits chuchotements, plein de petits murmures. Mais nous n'avions même pas besoin de ces chuchotements et de ces murmures et de ces miaulis de chat. Ça peut être ça, vous savez, l'amitié.
Et puisqu'on...
On était trop pudique pour pouvoir jamais s'être dit « nous sommes des amis ». On ne s'est pas dit « Pascal, tu n'es pas mon ami ». On ne s'est pas dit « Emmanuel, tu es mon ami ». Trop pudique.
Ça amène assez naturellement aussi, un aspect de votre livre qui est justement dans les évocations des paysages et le rapport que peut avoir le temps et le paysage et l'attention très fine que vous avez notamment à la lumière, aux couleurs, à la façon dont le jour monte ou décline. Il y a notamment une évocation... de Lyon, hein, où vous, à la fois, il y a une très très belle, très beau texte, je vais vous le passer peut-être pour que vous en lisiez un petit peu, et qui donne lieu à justement toute une distinction fine entre l'aube, le crépuscule, l'heure vespérale, etc., à partir de cette attention menée au paysage, et alors peut-être le mieux déjà pour le lecteur.
Le matin ne rayonne pas. Il arrive invisiblement en faisant apparaître. Il devance le disque d'or rouge de l'astre. Le matin éteint si insensiblement la forme de la lune qui ne s'efface pas encore tout à fait au fond du ciel. Sa fraîcheur engendre les nuages qui se délinent dans le ciel. Il y a des mots que l'on peut écrire volontiers, mais qu'une fois surtout pas dire. Dans le ciel qui s'ouvre, son blanchiment fait naître la pénombre qui devient ombre, fait luire le bord des toits de tuiles, fait luire l'eau de Lyon qui passe et les premières vagues qui la plissent sous l'effet du vent qui se lève. Le bleu pâle de la touffe du chardon apparaît. Puis le buisson d'églantier aux petites cosses rouges, la maison, tous les petits habitants de la rive, la barque plate noire, les noisetiers. L'aube unifie encore les êtres sans ombre dans sa pâleur. Soudain, la pâleur extrême des astres s'appauvrit en petits points, en petits puntilla, sur la voûte céleste. L'aurore arrive au sein de l'aube. L'aurore désunifie les contours des choses à l'aide de ses rayons, rayonne, dévêt l'obscurité de la nuit qui, elle, décolorait tout, déformait tout, fusionnait, rassemblait. Si, après l'aube, c'est l'aurore, après l'aurore, c'est le matin. En un instant très bref, qui n'est qu'un minuscule fragment de l'heure, le soleil qui s'est levé s'élève, dégage les formes sur la terre, les déshumidifie, les entoure de répercussions d'ombre au-delà du silence, de faiblesse et même de brume que la première chaleur de l'étoile produite en transformant la surface de l'eau en vapeur. L'aube n'apporte pas avec elle la couleur. La vraie couleur, ce n'est même pas le matin qui la donne, c'est le jour. L'aube n'est pas plus le jour que le matin n'est l'aurore. L'aube alba, encore dans la nuit, est ce blanchissement en amont de toutes les couleurs que le blanc contient peut-être. L'aube est le jadis des couleurs qui apparaît dans le ciel avant qu'elle ressuscite. Vous êtes très gentil.
Non, c'est magnifique. Et donc, c'était ça, effectivement, ce que j'essayais de... Enfin, la question que je voulais vous poser, c'était la relation entre l'aube et le jadis des couleurs. Qu'est-ce qui prédomine entre l'espace et le temps? C'est le temps qui fait advenir l'espace. Notre relation à l'espace, c'est une relation temporelle. C'est ça que...
Oui, mais même en vérité, même dans la physique, ça commence, si on en croit les mythes que les physiciens produisent, ça commence par quelque chose d'extrêmement un brouillard, extrêmement obscur, et la lumière ne vient que très tardivement. Et il faut la lumière pour qu'on puisse, comment dire, mesurer quelque chose comme de l'ordre du temps, et que s'épanche quelque chose comme qui serait de l'ordre de l'espace. Donc tout ceci vient d'une nuit plus profonde qui est merveilleuse, qui est merveilleuse, comment dire, comme d'ailleurs notre conception est dans l'obscurité. C'est très curieux que la vie de nous, les mammifères vivipares, commence par se préserver dans l'ombre et l'obscurité avant de surgir 9 mois plus tard, dans la lumière soudain, un peu comme l'origine du temps lui-même. Non, moi, tout ceci sont des énigmes qui me plaisent infiniment. Et c'est vrai, mais il n'y a pas du tout que moi. Bon, j'étais bouleversé comme lecteur lorsque j'ai lu pour la première fois des femmes comme Sai Shonagon et son journal précisément sur les paysages, les lieux, et les sens, le monde sensoriel de Sai Shonagon, Colette, merveilleux écrivain aussi, de tout ce qui est sensoriel. Pour le monde romain, l'incroyable, bien sûr, il écrivait en grec, mais enfin, ça ne change rien. L'incroyable livre de Marc Aurèle est quelque chose de très oriental, d'ailleurs, très, très oriental. Voilà.
Bon, et puisque là, effectivement, vous avez évoqué la merveille, et ça, dans votre livre, il y a aussi tout un arrêt sur le détail merveilleux, l'importance du détail et de la merveille qui donne justement cette sensualité ou cette aux heures. Et j'ai l'impression dans ce livre, souvent, mais dans ce livre peut-être plus particulièrement, qu'il y a une place qui est accordée à l'association de la psychanalyse ou à une place qui est accordée à la psychanalyse qui est plus nette que dans d'autres ouvrages. Bon, il y a un chapitre où vous évoquez Thalassa de Ferenczi. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, Emmanuel Bernheim vous a pris pour un psychanalyste, dites-vous, la première fois, c'est dans le livre hein, aussi, la première fois qu'elle vous a vu. Il y a cet attachement au détail, hein, qui à l'association libre des rêves. Est-ce que votre écriture participe d'une certaine manière d'une démarche de ce type par l'association, comment vous placez par rapport à cette à la psychanalyse? Enfin, c'est une question beaucoup trop vaste, mais peut-être dans la pratique.
Non, mais vous avez raison de la poser parce que je l'avoue plus volontiers pour une raison qui d'ailleurs est un peu historique. Une nouvelle religion un peu douteuse, un peu positiviste, et les sciences cognitives et des choses comme ça ont fait que on présentait maintenant la psychanalyse comme quelque chose qui était défunt, qui n'existait plus. Et Vous voyez, j'étais sensible dans le livre précédent dont vous parliez, autour dont on parlait oui. ensemble il y a un an, au fait que les luttes disparaissaient comme ça, soudain, les luttes de la Renaissance, bon, sous Louis XIII, aussi par la persécution contre les luthériens, parce qu'il y a eu un mélange très curieux de jeux de mots en France entre la disparition du lutte et la haine et la persécution du protestantisme. Et puis est arrivé ensuite les viols, avec leur disparition soudaine, comme ça, très soudaine, en France du moins, pas du tout en Angleterre, mais en France soudain, comme ça, sous la Révolution française, comme si ces instruments étaient aristocratiques. Et ils ont disparu, ils ont été engloutis d'un coup dans le romantisme et dans la terreur de la Révolution. C'est une très, très... ensuite, le piano qui est arrivé, et dont je sens aussi, comment dire, bon, de Chopin à Fauré, à Montpaou, comme dont je parle, etc. C'est aussi quelque chose qui n'aura peut-être pas duré non plus, un peu plus que d'un siècle. Et donc, il y a pour moi une tristesse, j'aimerais pas que la psychanalyse, comment dire, ne dure elle aussi qu'un siècle, alors qu'elle m'a sauvé la vie, et que... Donc, je l'avoue plus parce que je la sens, comment dire, au regard de certains comme un peu disparaissante. Vous comprenez ce qui motive. Mais sans ça, elle a toujours, comment dire, été au fond de l'expérience de ce que c'est aussi non. Là, vous avez raison. C'est plus profond. C'est comme cette étrange circonstance, cette heure au fond du bonheur, cette heure au fond du malheur, est un problème de traduction. Et que la psychanalyse, dans le fond, c'est... on va retraduire ce que vous avez vécu. On va donner un autre récit à ce qui a été, à ce que vous vous étiez raconté, ou à ce que vos proches, ou à ce que vos parents voulaient que vous soyez, ou à ce que le destin que vous étiez supposé. On va raconter une autre narration et on va la transfigurer autrement. Or, je pense profondément, en effet, que le bonheur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, était une rémanence particulière, une résurgence qu'il faut, qui peut se transfigurer elle-même. Et dans ce sens-là, en effet, les expériences sont très proches. Elles concernent en effet la composition de la musique, la transfiguration, la traduction de nos vies et la possibilité de faire quelque chose qui est de l'ordre traumatique, de faire quelque chose de plus en plus beau. Vous voyez, tout ça se mêle.
Bien, alors peut-être pour finir, je vais vous redemander une dernière lecture d'un passage qui est aussi un plaisir personnel de lecture. Vu que j'ai cette place-là, j'en profite de manière éhontée. Et qui me paraît important, c'est le chapitre que vous intitulez « Poème », où on a effectivement une succession de poèmes déjà donne une idée, effectivement, on connaît de cette discontinuité qui mime d'une certaine façon notre appréhension du temps et qui commence par ce poème des animaux qui déhiérarchise. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que d'un coup, on n'est plus du tout dans la hiérarchie normale des êtres humains. La hiérarchie, c'est le temps et la durée de leur vie. Hein, donc, bon, bref.
J'ai appelé ça poème par humour. C'est pas aussi beau que du Rilke, mais c'est... Les taureaux vivent 30 ans et les grenouilles aussi. La tortue, 150. Une guêpe, 5. Les esturgeons vivent 100 ans. L'éponge, 15. La souris, 3. L'homme se situe entre l'oie, ou le cygne, et la moule de Bouchot. Les lions, les rois de la nature, ne vivent pas plus de 33 ans. Les pigeons, 35. Les vautours, 120. On monte, on s'élève dans le temps et dans l'âge. 1879. Maria, 8 ans, hissant la tête, cassant la tête, regardant le plafond, levant la main, s'écria « Mira, papa, Boyès, Boyès, regarde, papa, des bœufs. Altamira apparut, mais il fallut des années et des années pour s'en convaincre. L'art des cavernes est si récent dans la cavité céphalique, obscure, caverneuse, noirâtre des hommes. Le roi Arthur n'a jamais vu un hortensia. Anne de Bretagne ne connut pas la glycine. Le premier marronnier arriva à Paris, transporté d'Asie mineure sur une caravelle à quatre voiles carrées, dans une caisse en bambou qui avait été placée sur la poupe. Quatre marins la transportent sur une charrette tirée par deux bœufs sur les pavés du Havre. Nous sommes en 1612.
Merci beaucoup. Et donc, pouvons l'applaudir. Merci pour votre présence. Merci, Pascal Quignard, d'avoir accepté.
Merci pour vos questions. Merci pour vos questions.
Et la librairie est bien entendu tout à fait heureuse de vous avoir, comme à chaque fois, et avec un public qui est toujours aussi nombreux. Merci encore.
Merci.